Bonsoir. Clôturé hier mardi à Addis Abeba du 29e sommet de l'Union africaine. Dans son discours, le président en exercice de cette institution dénonce les sanctions unilatérales et injustes imposées par l'Union européenne aux citoyens et États membres de l'Union africaine. Alpha Condé fustige l'ingérence étrangère dans les affaires internes des pays africains, estimant qu'ils sont devenus majeurs et capables de trouver des solutions à leurs problèmes. Quelle lecture faire de cette déclaration? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 5 août 2017. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Agé Matembo Toto, vice-ministre des Affaires étrangères et intégration régionale. Monsieur le vice-ministre, bonsoir. Apparemment, on a perdu le vice-ministre. La réalisation va essayer de le retrouver dans ce studio avec moi. Fabien Moutombe, député national de l'opposition et président intérimaire du groupe parlementaire UDPS et Ali à l'Assemblée nationale. Monsieur Moutombe, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir aussi aux auditeurs de la radio Okapi.
Professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur Maïndo, bonsoir.
Bonsoir madame.
Merci de nous suivre à Kisangani dans la province de la Tchopo sur la 94.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Clôturière mardi à Addis Abeba en Éthiopie du 29e sommet de l'Union africaine. Cette session avait pour thème tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Plusieurs résolutions issues de ce sommet ont été prises, notamment les refus de toute intrusion dans les affaires internes des États africains. Daniel Tamizoni revient sur les temps forts qui ont marqué ce sommet et les différentes recommandations.
Trois temps forts ont marqué ce sommet d'Addis Abeba, à savoir la prestation de serment de deux nouveaux commissaires, dont celui aux relations humaines, sciences et technologies, le discours d'adieu de la présidente du Liberia, Ellen Johnson, et l'adresse d'Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Dans son discours, Alpha Condé a souligné, je cite, « Nous n'allons plus accepter qu'on nous donne des ordres. Les États africains sont devenus majeurs et capables de trouver des solutions à leurs problèmes. » Fin de citation. Quant à la question de savoir comment concilier le refus de l'ingérence étrangère dans les affaires internes des Africains et la main tendue de ces derniers vers les mêmes puissances occidentales, à ce sujet, il a été demandé aux chefs d'État africains de réfléchir sur les mécanismes d'autofinancement pour assurer davantage d'autonomie et d'indépendance à l'organisation africaine. C'est ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamad, a fait savoir qu'un comité spécialisé composé des ministres des Finances des 10 pays membres se penchera sur la mise en œuvre de cette réforme.
Merci Daniel Tamizoni pour tous ces détails. Agé Matembo Toto, je rappelle que vous êtes vice-ministre des Affaires étrangères et intégration régionale. Est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, madame.
Alors, monsieur le vice-ministre, quelle lecture vous faites de cette déclaration du président Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine?
Oui, madame, tout ce que nous avions retenu et tout ce que nous pouvons vous donner comme lecture, d'abord, nous confirmons que c'était pratiquement la victoire diplomatique de notre pays et aussi la victoire diplomatique de toute l'Afrique en entièreté. Parce que vous venez de vous rendre compte qu'aujourd'hui, à peu plus de 50 ans, l'Afrique refuse de suivre les injonctions occidentales. Mais l'Afrique dépend de son destin à main et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, les Européens et les autres puissances qui veulent toujours l'ingérence dans nos pays respectifs doivent réfléchir deux fois. C'est fini le blabla, fini de voir l'Afrique divisée. Aujourd'hui, l'Afrique a confirmé, selon les principes des panafricanistes historiques que nous connaissons très bien, que nous ne sommes plus disposés de pouvoir suivre n'importe quelle injonction. Nous sommes matures et notre destin nous revient.
L'Afrique veut prendre son destin en main en ayant toujours la main tendue vers l'Occident, monsieur le vice-ministre.
Je crois que cette main tendue d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous venez de comprendre que certains gros problèmes que l'Afrique est résolvés par les trichements de puissances étrangères, aujourd'hui l'Afrique est en train de faire tant soit peu pour résoudre ses propres problèmes. Notre pays en est une preuve éloquente parce que vous voyez que nous sommes en train de nous défaire de cette main tendue, même pour les élections. Vous voyez que la République démocratique du Congo est en train de prendre conscience et de dire que en ce qui concerne le fondamental de notre pays, nous devons le faire nous-mêmes. Donc cette politique n'est plus comme c'était hier.
Vous parlez de victoire diplomatique de la RDC et de l'Afrique. Pourquoi victoire diplomatique de la RDC?
Oui, parce qu'il n'y a pas très longtemps, vous aviez suivi, comme tout le monde entier a suivi, les sanctions injustifiées, les sanctions infondées, parce que là, l'Union européenne a violé noir sur blanc l'accord Kiloli, qui n'est rien d'autre que l'accord du Cotonou. L'Union européenne a violé, mais aujourd'hui, toute l'Afrique toute entière vient de confirmer la position de notre pays, que l'Union européenne a violé au mépris affiché, au droit d'être entendu. L'Union européenne a sanctionné, sans donner la possibilité au droit de la défense, au droit d'être informé sur les faits impliqués sur le personnalité politique de la République démocratique. Alors nous avions compris que vraiment l'Union européenne s'est comportée officiellement comme une jumelle d'une opposition radicale dans notre pays.
Et vous pensez que le fait de dénoncer, cela pourrait pousser l'Union européenne à revoir sa décision, à lever les sanctions?
L'Union européenne n'a plus d'autre choix. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne doit comprendre que l'Afrique, de manière unanime, est contre cette politique. Cette politique ne peut plus passer. Si l'Union européenne doit s'entêter de ne pas retirer ses sanctions, je crois que tout est clair. Toute l'Afrique va se prendre en charge.
Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rompre les relations diplomatiques avec l'Union européenne?
Nous ne sommes pas là pour rompre les relations diplomatiques. Par contre, nous devons confirmer à l'Union européenne que nous sommes là pour un partenariat avec le respect de nos souverainetés réciproques. On ne peut pas rompre, mais nous allons corriger à l'Union européenne de revoir, parce que ces sanctions sont impopulaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien connu que l'Union européenne est instrumentalisée par certains fils égarés d'Afrique. Pourquoi pas de notre pays? Donc l'Union européenne doit refaire sa politique et ne doit pas être un instrument au service d'une opposition qui veut détruire toute l'Afrique.
Monsieur le vice-ministre, est-ce que ce n'est pas le comportement de certains dirigeants africains qui poussent ces occidentaux à s'ingérer des affaires internes des pays africains, lorsque par exemple des présidents qui passent leur temps à modifier leur constitution, des présidents qui veulent pas organiser les élections, est-ce que c'est pas finalement les Africains qui poussent les Européens à s'immiscer dans leurs affaires?
Non, je crois que ça, ce n'est pas une raison. Chaque peuple a ses problèmes, chaque nation a ses difficultés. Au jour d'aujourd'hui, je prends le cas de notre pays, il n'y a aucune justification que l'Union européenne peut brandir pour dire que c'est parce qu'on n'a pas organisé les élections, c'est parce qu'on ne veut pas les organiser. Je crois que l'Union européenne est écoutée. Nous avons nos problèmes et nous sommes en train de nous assumer. Je crois qu'aujourd'hui, le message du 29e sommet de l'Union africaine doit remettre l'Union européenne en question et doit réfléchir deux fois pour poser un acte en Afrique. J'espère que nous avons nos problèmes et aussi on les leurs. Est-ce que vous pouvez vous imaginer aujourd'hui, nous vous confirmons que c'est les droits de l'homme aujourd'hui que nous venons de nous rendre compte qui est la voie utilisée par ces Occidentaux pour justifier leur ingérence dans notre pays. Et pourtant, ce qui se passe dans leur pays, vraiment, ce n'est pas beau à voir. Ils veulent nous donner des leçons au moment où ils n'ont pas vraiment la maîtrise même sur leur sécurité. Ils veulent nous donner des leçons au moment où ils vivent des situations plus graves que dans notre pays. Alors, après 50 ans, nous venons de nous dire que vraiment, on doit nous respecter parce que les Lumumba, les Musées et les autres n'ont pas mort pour rien. Ça, nous refusons.
Merci, monsieur le vice-ministre AG Matembo Toto. Fabien Moutombe, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et président intérimaire du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale. Votre lecture de cette déclaration du président Alpha Condé qui fustige l'ingérence étrangère dans les affaires internes des pays africains, estimant que les Africains sont devenus majeurs et capables de trouver des solutions à leurs problèmes.
C'est ce qu'on appelle l'ivresse de lait. Le discours de Condé s'est fondamentalement écarté du thème général. Et le thème général était consacré à la jeunesse et aux réformes. Il s'est plutôt cristallisé sur les intérêts individuels de certains chefs d'État, faisant ainsi de son auteur le défenseur des intérêts corporatifs, en lieu et place des intérêts supérieurs de l'Afrique. Si nous analysons son discours, il y a trois aspects, ce qu'il avance. Il avance l'ingérence, les sanctions et la maturité des Africains. Si vous prenez l'article 215 de notre Constitution, cet article stipule que les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur signature, une autorité supérieure à celle de nos lois. Vous avez suivi mon co-débatteur âgé, Matembo, il a parlé de l'accord de Cotonou. Qu'est-ce que l'accord de Cotonou stipule? Cet accord exige aux pays africains aussi qu'au terme de cet accord, il y a lieu de promouvoir les droits de l'homme, des valeurs démocratiques et la bonne gouvernance. C'est à ce sujet que je vais entrer sur ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Les sanctions dont il est question, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui est sanctionnée. Ce sont les personnalités, certaines personnes, de manière ciblée, de manière individuelle, qui sont sanctionnées. Mais ils sont sanctionnés pourquoi ? C'est très important. Ils sont sanctionnés d'abord puisque ils ont violé la constitution de notre pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point...
Ils ont violé puisque, comment?
Vous voulez que j'entre en profondeur, madame?
Brièvement.
Je voudrais tout simplement vous dire que ce qui est arrivé, nous avons plutôt violé 4 ou 5 articles de notre constitution. L'article 25 de notre Constitution parle des libertés, de la liberté des réunions pacifiques. Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, aujourd'hui, interrogé à Lubumbashi, comme partout ailleurs, les gens se rencontrent dans leur parcelle, ils sont pourchassés. Vous avez l'article 24. Le droit à l'information, n'est-ce pas, madame? Le signal RFI. Vous avez l'article 23, la liberté d'expression. Vous avez tout récemment l'accord cadre de la Saint-Sylvestre qu'on a pratiquement vidé de toute sa substance. Vous avez certaines résolutions prises par la Cour constitutionnelle qui sont bafoué.
Et pour vous, ce sont ces personnalités sanctionnées qui ont violé la Constitution.
Madame, on les a sanctionnées. Premièrement, ils ont enfreint à la liberté des tenues des réunions. N'est-ce pas? Premier point. Deuxième point, ils ont taclé les processus démocratique. Troisième point, vous avez l'insécurité que nous sommes en train de vivre avec, à la clé, madame, aujourd'hui, plus d'1 million de Congolais au Kasaï qui sont en train de
errer dans la brousse. Mais est-ce que tous ces problèmes ne peuvent pas être résolus par les Africains? Est-ce qu'on a besoin de l'Union européenne pour gérer tous ces problèmes?
Si nous avons une institution comme l'Union africaine, une institution crédible qui surveille
les processus démocratiques dans pratiquement tous les pays. Mais si vous analysez la situation, tous ces présidents, sur les 55 présidents, il y a 25 qui sont venus. Sur le 25, le trois quarts, ce sont des dictateurs.
Merci, alors, Fabien Moutombe.
Alors, faites avancer, permettez, madame. Avancer.
Vous êtes en avance par rapport au temps, Fabien Moutombe. Je vous redonne la parole tout à l'heure, merci. Professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kinshasa. Professeur, comment vous analysez ces déclarations du président Alpha Condé qui estime, qui dénonce les sanctions unilatérales et injustes imposées par l'Union européenne aux citoyens États membres de l'Union africaine?
Bien, merci beaucoup, madame. Je pense que c'est un cri d'un homme qui est un peu aux abois, puisque quand on veut, on dit qu'on est majeur, parce qu'ils ont parlé de la majorité des États africains. La majorité, ça doit se prouver par des actes. On ne peut pas demander à l'Union européenne de l'argent, y compris pour des missions régaliennes de l'État, notamment en ce qui concerne le financement des budgets, en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix, etc. C'est ça. On demande l'argent pour le développement, mais en même temps, quand il s'agit, comme vous rappelle vos obligations, vous commencez à contester en disant, voilà, nous sommes des majeurs. Il fallait commencer par le faire avant. Nous devrions avoir plutôt, je pense que les chefs d'État africains devraient avoir honte que ce soit des Occidentaux qui leur rappellent leurs propres devoirs envers leurs compatriotes, hein, qui méritent quand même dignité, qui méritent d'être traités comme il se doit. Et donc là, on est face à une situation qui est simplement révoltante. Alors, on dit principe de souveraineté, mais aujourd'hui, la souveraineté, ce n'est plus la souveraineté de Jean Baudin, qui était l'absolutisme et qui conduisait à des autoritarismes. La souveraineté, même si on peut l'imaginer, ça peut être populaire ou national. Donc, c'est le peuple qui est souverain donc dans tout ça. Donc, et c'est relatif entre les États. Alors, mais ce qui est très important que je voudrais souligner ici, c'est que ces sanctions qui sont prises par l'Union européenne ou les États-Unis, ces sanctions sont prises en fonction, sur base des accords qui ont été signés entre ces entités et la République démocratique du Congo et les États africains. Je rappelle que tous les accords qui sont signés par l'UE et les États-Unis avec les parties tierces, comporte toujours une clause du respect des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Et donc, quand nos responsables africains signent ces accords-là, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont distraits ou ils sont préoccupés simplement à retirer les dividendes financiers des accords? Parce que s'ils étaient sérieux, ils comprendraient qu'en signant les accords qui donnent, si vous voulez, qui prévoient des clauses de respect des droits de l'homme et de la gouvernance, que si vous ne respectez pas, on peut, les partis, en droit international, comme il n'y a pas d'autre moyen pour les faire, alors les partis peuvent recourir à des sanctions unilatérales. C'est ce qui s'est fait. Ça peut aller sur l'usage de la force. Vous savez que la Russie a été sanctionnée pour son agression de ses voisins. Vous savez que l'Iran a été sanctionné pendant de longues années. Vous savez que le Qatar vient d'être sanctionné par ses voisins, etc. Donc, mais libre à d'autres de pouvoir utiliser les principes de réciprocité pour aussi prendre d'autres mesures. Mais alors, ces sanctions et ces mesures peuvent aussi être fondées en droit sur, à part cela, sur le principe d'ingérence humanitaire. Et donc, quand il y a des situations graves, on peut intervenir. Et aussi la responsabilité de protéger, qui est aussi un autre principe qui a été développé. Et je me souviens que nombre de chefs d'État africains, y compris des leaders d'opinion, ont reproché à la communauté internationale son inaction face à ce qui est arrivé au Rwanda, notamment les génocides rwandais. On a dit qu'il fallait intervenir, il fallait empêcher que ça arrive. Et maintenant que certains de ces pays veulent prévenir qu'il y ait d'autres crises graves, d'autres situations dramatiques, pourquoi on se plaint alors? Donc on devrait plutôt les féliciter de ces gestes-là. Alors, en dernier lieu, ce que je voudrais dire, cela répond aussi au principe même disons, au texte constitutif de l'Union africaine et des États membres. Si vous regardez, par exemple, l'article 4 de l'acte constitutif de l'Union africaine, qui dit, dans l'alinéa G, il dit principe d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État membre, mais principe H, c'est bien souligné, le droit de l'Union d'intervenir dans un État membre chaque fois qu'il y a une situation grave comme crime de guerre, génocide, violation massive des droits de l'homme.
Et si vous, en plus, il y a aussi les principes M, respect des principes démocratiques et droits de l'homme et de bonne gouvernance. Au nom de ces principes-là, il est prévu dans l'article 23 de l'acte constitutif de l'Union africaine qu'il y ait aussi des sanctions contre cet État membre ou les gens qui sont dans cet État-là. Alors, si les États africains, l'Union africaine, n'appliquent pas ses propres textes, alors que les autres veillent appliquer leurs textes qui lient ces entités-là à l'État congolais ou aux États africains, alors on ne peut pas leur reprocher d'appliquer des textes. C'est justement ce que nous aurions dû faire, nous-mêmes aussi. Et je peux citer d'autres textes de l'Afrique, notamment les pactes africains de non-agression et de défense commune adoptés à Abuja en 2005. Et dans son préambule, par exemple, il souligne la nécessité que l'on puisse préserver les droits de l'homme et que l'on peut faire des interventions dans les États membres pour préserver ces droits humains-là. Et
merci. Choses,
voilà. Donc, pour prévenir notamment les génocides et d'autres formes de massacres contre les populations de ces pays-là.
Merci,
voilà. Donc,
professeur.
Des instruments même africains qui demandent des interventions, des sanctions.
Merci, professeur Maindo. Monsieur Agé Matembo, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
Joseph Mangala, j'appelle à partir de Kisangani. Le discours du président Alpha Condé est un non-événement en République du Congo, parce que l'Union africaine nous a envoyé Edem Kodjo, qui n'a jamais résolu la crise politique que connaît la République démocratique du Congo. Ensuite, l'Union africaine ne nous a jamais aidé à résoudre un quelconque problème en République du Congo. Ce discours est un soutien au syndicat des dictateurs que nous n'acceptons pas en République démocratique du Congo. Les Kasaï, les Nord-Kivu connaissent des problèmes, mais aucune initiative de l'Union africaine.
Monsieur Agé Batembo, réaction.
Oui, madame, c'est vraiment regrettable. Au XXIe siècle, certains Africains, particulièrement certains Congolais, se permettent de faire des déclarations incendiaires. Là, nous venons de nous rendre compte que ce sont les antennes de l'Union européenne ici. C'est pour cette raison que nous avions compris d'abord d'emblée. Toutes ces sanctions sont rachetées et redistribuées par les gens qui n'aiment pas l'avancement de ces continents. Au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas un cas de figure où l'Union européenne a résolu le problème en Afrique. Je ne vois pas un cas de figure où l'ONU a résolu le problème ici en Afrique. Nous avons des cas patents. Souvenez-vous, lors de la crise en 2002-2003, que tout me remercierait. Je crois que les Africains ont démontré qu'ils sont capables et matures de résoudre leurs problèmes entre eux.
Ils l'ont démontré quand? Vous avez des cas précis?
Allô?
Oui, monsieur le vice-ministre, vous dites que
oui,
les Africains ont prouvé.
Souvenez-vous de la crise quand notre pays était subdivisé en quatre. On avait quatre républiques dans une république. Mais nous avions recouru à l'expertise africaine. Nous connaissons aussi l'expertise de Mandela en 96. Donc je crois que si aujourd'hui on doit dire que Edem Kodjo n'a rien fait dans ce pays, vraiment là, il faut vraiment être hors la République démocratique du Congo. Je crois que si ce pays est stabilisé à ce niveau-là, c'est parce que les Congolais se sont dépassés. Je prends les cas. L'opposition qu'on avait dans ces pays, qui n'existe presque pas parce que l'opposition, ce sont les Occidentaux aujourd'hui, l'opposition qu'on avait dans ces pays avait refusé la médiation par les Africains. Il fallait une médiation internationale, je ne sais pas s'il fallait avoir seulement les Blancs. Mais Edem Kodjo nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Mais ce sont les mêmes gens, les mêmes antennes de ces Européens-là qui continuent à croire que l'homme noir n'est plus capable de faire quelque chose.
Alors vous dites, monsieur le vice-ministre...
Nous avons encore des difficultés, nous avons encore des difficultés, mais nos difficultés ne donnent en aucun cas le droit de s'ingérer dans nos affaires.
Alors vous dites que monsieur Edem Kodjo, monsieur le vice-ministre, s'il vous plaît, vous dites que monsieur Edem Kodjo nous a emmenés là où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'une crise politique en RDC. Est-ce que ça veut dire qu'il nous a emmenés vers cette crise?
Je crois que le chemin sur lequel nous retrouvons aujourd'hui, c'est le chemin tant souhaité par le peuple, le chemin vers les élections. Je crois que Edem Kodjo a fait sa part, et nous, le peuple congolais, nous-mêmes, les concernants de ce problème, nous sommes en train de faire notre part, en amenant le peuple à résoudre son propre problème,
Aujourd'hui, nous savons quelle est l'aspiration de notre peuple. Ce sont les élections. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes sur la voie des élections. Vous voyez l'opposition qui représente cette Union européenne ici est en train encore de nous distraire. Nous ne serons jamais distraits. Le cap vers les élections est notre détermination, c'est la détermination du peuple. Ce discours des opposants sans position, parce que ces sanctions sont rachetées par les mêmes opposants du pays. Mais nous disons que ça ne peut plus se passer comme ça. On peut beau nous évoquer les articles, on peut beau dire, mais au jour d'aujourd'hui, par le peu de moyens que l'Afrique disponibilise, veut faire la politique de ses propres moyens.
Parlons des sanctions, vous dites que l'Union européenne a violé l'accord de Cotonou, mais le même accord, dans ce même accord, on dit que l'Union européenne peut sanctionner les États ou les individus qui ne respectent pas les droits de l'homme ou qui ont commis des graves violations de droits de l'homme. Ils peuvent sanctionner pour des crimes contre l'humanité. Pourquoi vous pensez qu'il y a eu violation?
Il y a eu violation. Où est-ce que l'Union européenne a placé les droits d'être entendus? Où est-ce que l'Union européenne a placé les droits d'être informé sur les faits qu'on vous impute? Où est-ce que l'Union européenne a placé les droits de la présomption d'innocence? L'Union européenne n'a pas le pouvoir ou le monopole de s'ériger en juger parti et se réveiller, commencer à sanctionner les gens, sans pour autant accorder à ces derniers la possibilité de se défendre. Ça, c'est quel droit de l'homme? C'est quel droit de l'homme? Nous ne voulons plus ces droits de l'homme à double vitesse. Même l'accord de Cotonou prévoit, dans des cas pareils, il y a les articles pertinents qui confirment qu'on doit être informé. Et quand on dit qu'on n'a pas sanctionné la RDC, je crois que c'est une lecture biaisée. Ces gens-là n'ont pas été sanctionnés parce qu'ils faisaient leur propre champ. Ces gens ont été sanctionnés dans l'exercice des fonctions de l'État, dans l'exercice des fonctions données par l'État congolais. Donc, en un mot, nous venons de nous rendre...
Mais c'est des individus qui sont sanctionnés, c'est pas l'État congolais.
Les individus qui sont sanctionnés, qui sont au service de l'État, c'est dans l'exercice qui leur a été confié par l'État congolais. Donc, moi, je ne pense pas que les gens qui ont été sanctionnés, c'est parce qu'ils sont courts ou minces. Non, ils ont été sanctionnés parce qu'ils voulaient imposer l'autorité de l'État. Quand on tue les gens, on demande à ce que la police et l'armée fassent quelque chose. Quand le pouvoir en place, notre pouvoir, l'État congolais se prend en charge, on dit que l'État congolais est en train de violer les droits de l'homme. Mais ces droits de l'homme, quand on est en train de tuer Kadhafi, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Pourquoi pas l'Union européenne n'a pas donné de bonnes leçons de morale pour dire que non, voilà comment Kadhafi a été tué, on a violé les droits de l'homme.
Merci, monsieur Hachem Matembo. Je veux vous redonner, monsieur le vice-ministre, s'il vous plaît.
Et l'Afrique tout entière n'a pas accepté et n'acceptera plus jamais.
Merci, monsieur le vice-ministre. On vous redonne la parole tout à l'heure. Fabien Mouton, on va prendre pour vous aussi cette réaction qui nous vient de Mbujimayi.
Noé Mpulumba de Mbujimayi dans la province Kasaï orientale. Je soutiens en particulier les décisions de l'Union africaine, car ce n'est pas parce que l'Union européenne nous aime qu'elle sanctionne nos dirigeants, mais elle les fait par colère pour leurs propres intérêts égoïstes. 1. Personne ne me convaincra que Kadhafi a été sanctionné par l'Union européenne parce qu'il était mauvais ou maltraitait son peuple. 2. C'est l'Union européenne qui avait gardé Mobutu pendant 32 ans au pouvoir malgré qu'il maltraitait le peuple. Lorsque le décret des droits de l'homme a été signé après la Deuxième Guerre mondiale, l'Union européenne continuait à coloniser bon nombre de pays africains. Bref, l'Union européenne poursuit ses intérêts égoïstes en manipulant la pauvre population sous la casquette de la démocratie qu'elle n'a jamais voulu qu'elle soit appliquée en Afrique, car c'est l'Union européenne qui nomme ou qui impose les dirigeants en Afrique.
Fabien Mouton, réaction.
Madame, d'abord je voudrais revenir sur quelque chose avant d'aborder le questionnement de Monsieur Noël Mpulumba, mon compatriote. L'opposition existe en République démocratique du Congo. À l'heure, l'opposition s'est débarrassée par leur turpitude, les infiltrés du pouvoir. Petit à petit, l'espace politique de notre pays est dégagé. Vous avez aujourd'hui l'opposition incarnée par Félix Tshisekedi en date et la majorité incarnée par M. Kabila. Donc là, c'est une très bonne chose pour la République démocratique du Congo. Maintenant, nous avons le problème que nous connaissons aujourd'hui. Ne voyons pas tout simplement les conséquences. La question fondamentale, c'est de savoir si nous en sommes, nous sommes au stade où nous en sommes aujourd'hui, c'est puisque une personne, celle qui devrait respecter et faire respecter la Constitution, je voudrais dire M. Kabila, n'a pas respecté la Constitution de la République. Chapeau à Ellen Johnson. Vous avez suivi, elle avait la vedette à l'Union africaine. Dans la mesure, après ses deux mandats, elle a respecté, elle a fait ses adieux. Ici, nous avons quelqu'un qui refuse de partir. Et à partir de ce moment-là, il arrête des stratégies de, je ne sais même pas comment est-ce que je peux qualifier ça, pour s'accrocher au pouvoir.
Alors, on revient à la préoccupation de l'auditeur de Mbujimayi.
Je reviens à la préoccupation de mon compatriote Noé Poulumba. Nous sommes dans un état atypique. Je prends seulement l'exemple du Kasaï, où nous avons plus ou moins 1 million de nos compatriotes qui sont en train d'errer dans la nature, et OCHA a spécifié, a chiffré que pour venir en aide, sécuriser nos compatriotes, il faut plus ou moins 64 millions de dollars américains. Jusque-là, on a déjà donné seulement 6 millions. Ça fait à peu près 10%. Que fait notre État? Pendant la même période, je précise, vous avez ce que nous avons baptisé Panama Papers, c'est-à-dire vous avez des responsables de la République qui vont cacher l'argent qu'ils ont indûment obtenu dans les paradis fiscaux. Vous avez tout récemment...
Mais qu'est-ce que vous pensez de l'auditeur quand il dit que l'Union européenne ne nous aime pas, en fait... qui dit quoi? Je soutiens en partie les décisions de l'Union européenne.
J'arrive.
Ce n'est pas parce que l'Union européenne nous aime qu'elle sanctionne nos dirigeants.
L'Union européenne a très bien saisi que ce qui se passe chez nous, la faiblesse de notre justice, il faut venir en aide au peuple congolais. Vous savez très bien que les budgets de pratiquement 90% des pays africains, les budgets sont financés par les institutions de Bretton Woods, soit l'Union européenne, etc., etc. Mais lorsque quelqu'un donne son argent, quand on donne l'argent, cet argent-là doit entrer dans différentes rubriques, dont la démocratie, la sécurité. Et lorsqu'on constate que tous ces paramètres sont au rouge, ils ont le droit d'intervenir. Mais ici, ce qui fâche, c'est un pays, un État, un gouvernement qui décide de faire souffrir son peuple. Est-ce que vous voulez qu'il refuse d'organiser les élections? Et vous voulez que l'Union européenne croise les bras?
Lorsque notre collègue manipule la population, le ministre, lui, par contre, il pense qu'on manipule même l'opposition.
C'est-à-dire que dans l'ivresse de lait, dans les tourbillons du pouvoir, on est en déphasage avec ce qui se passe au niveau de la population. Aujourd'hui, le peuple congolais attend l'organisation des élections. Vous avez suivi les mêmes personnes qui sont parties à Addis Abeba. Nous venons d'apprendre qu'ils sont en Belgique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas?
Merci.
Ils sont allés quémander l'argent au lieu d'orienter cet argent pour le bien-être collectif, au lieu d'orienter cet argent pour l'organisation des élections. Cet argent, suivez tout simplement mon regard, vous allez voir dans quelle direction cet argent est en train de prendre. C'est dommage pour la République, comme notre justice est faible. L'Union européenne, connaissant très bien la République démocratique du Congo,
merci, monsieur Moutoum,
elle fait le relais. Elle fait le relais. Et
merci,
l'opposition
merci, monsieur
est debout.
On va respecter le chrono. Professeur, il y a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kindu, dans la province du Maniema.
Kawaya, Déborah, je vous appelle à partir de Kindu. Cette déclaration encourage les présidents dictateurs et leurs alliés, car l'Union européenne ne sanctionne pas par plaisir de sanctionner, mais c'est pour leur rappeler un certain nombre d'engagements qu'ils avaient pris vis-à-vis de leur population. Et aussi, la plupart des financements de ces pays africains proviennent de l'Union européenne. Qu'ils sachent que, même si l'Union européenne ne les sanctionne pas, le peuple les fera tôt ou tard.
Cet auditeur rejoint un peu, professeur, votre argumentaire de tout à l'heure. Professeur Maïndo? Professeur Maïndo, est-ce que vous êtes en ligne?
Chef d'État, il y en a certains qui ont des sons tout à fait discordants par rapport à ce discours sur l'Afrique aux Africains. Et je voudrais aussi dire que lorsque l'on prend ces sanctions, en fait, ce n'est pas parce que on est contre tel ou tel État ou contre tel ou tel régime. C'est simplement pour rappeler les régimes ou l'État en question à ses propres obligations, à ses propres obligations constitutionnelles. Si je prends par exemple la RDC, nous avons une constitution de 225 articles. Et sur les 225 articles, nous avons 5 à 7 articles qui sont consacrés aux droits de l'homme. Ça signifie que nous avons accordé nous-mêmes une importance considérable à ça. C'est presque le quart de notre constitution qui est consacré à cette question. D'où l'importance que nous y avons accordée. Alors, il faut qu'on nous rappelle ça. Nous devrions au contraire remercier les gens qui nous rappellent à nos propres engagements. Un père de famille qui maltraite ses enfants, y compris sa femme, qui les fait mourir de faim, qui les frappe et tout ça, et que les voisins viennent au secours pour leur donner à manger, ils ne devraient pas se plaindre. Voyez-vous, au contraire, ils devraient s'estimer heureux qu'il y ait quelqu'un qui prenne en charge sa famille. C'est ce qui arrive là, dans cette situation qu'on a là en ce moment. Alors moi, je voudrais aussi dire que c'est bien facile pour les chefs d'État africains, ils sont dans leur élément, de pouvoir critiquer ces mesures-là. Mais l'Union européenne, les États-Unis, quand ils prennent ces décisions-là, il faut comprendre, nous sommes dans des périodes de crise. Pour citer ici Louis de Bonnade. Louis de Bonnade dit ceci. Dans les crises politiques, le plus difficile pour un honnête homme, ce n'est pas de faire son devoir, mais c'est de le connaître. Et vous savez, ce n'est pas facile de prendre de telles sanctions, et c'est pour ça que vous avez vu qu'on a sanctionné plutôt des individus au lieu de sanctionner les États, pour éviter justement de faire souffrir les populations, pour ce qui concerne la RDC. Et dans d'autres pays, pour le Burundi, c'est là qu'on a mobilisé les accords de Cotonou, parce que pour la RDC, on n'a pas mobilisé les accords de Cotonou, on a mobilisé plutôt les instruments de l'Union européenne qui concernent les accords qui ont été pris avec la RDC en ce qui concerne le respect des droits de l'homme.
Alors
quand
Maïdou,
on mobilise les accords de Cotonou, il y a l'obligation dans ces cas-là d'abord de demander des explications à l'État ou à ses dirigeants. C'est ce qui a été fait avec le Burundi. On a demandé au Burundi de donner des explications et le Burundi a donné des explications qui n'ont pas satisfait. C'est alors que l'Union européenne, au nom des accords de Cotonou, a sanctionné le Burundi. Et pour la RDC, c'est différent.
Alors, professeur, à l'issue de ce sommet, les chefs d'État africains ont décidé de réfléchir sur le mécanisme d'autofinancement pour assurer davantage d'autonomie ou d'indépendance à l'organisation panafricaine. Vous pensez que c'est possible lorsqu'on sait que déjà il y a un problème sérieux pour les cotisations, les pays cotisent faiblement. Vous pensez que l'Union africaine peut arriver à s'autofinancer?
Non, madame, ça me fait sourire quand j'entends ce discours-là. C'est une vieille chanson qui date de l'époque de l'Organisation de l'Unité africaine. Les États promettent toujours, mais ne tiennent pas leurs promesses. Et ces promesses, c'est pas seulement au niveau de l'Union africaine qu'ils tiennent pas, même aux Nations Unies ou dans les organisations sous-régionales comme la CAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la communauté la CEPGL. Partout, les États ne tiennent pas, les États africains ne tiennent pas. Voyez-vous, même les fondamentaux de leur propre pays, payer les salaires de leurs fonctionnaires publics. Ils ont du mal à les faire. Comment pensez-vous que je puisse un seul instant penser que ces États-là puissent être capables de financer l'institution panafricaine qu'est l'Union africaine? C'est une utopie. Je voudrais vous donner une anecdote, madame. En 2005, il y avait la négociation de l'African Peace Facility, donc la facilité africaine de paix, entre l'Union européenne, disons la Commission européenne et la Commission africaine. Et ils ont recruté des experts. Moi, j'ai été recruté comme expert pour l'Union européenne, pour la Commission européenne, et tous les travaux, y compris pour les experts africains qui étaient pour l'Union africaine, ils ont été payés par la Commission européenne. Et donc, les collègues qui étaient recrutés par la Commission africaine a été moins bien payé que nous qui étions recrutés pour la Commission européenne.
Alors, en conclusion, professeur.
C'est lui qui a l'argent qui fait ça.
En conclusion.
Quand vous discutez comme ça pour votre sécurité et c'est quelqu'un d'autre qui paye, vous êtes dans la situation de preuve de faiblesse. Il faut grandir.
Merci, professeur Maïn. On va considérer cela aussi comme votre conclusion. Monsieur le vice-ministre Agé Matembo, face à ce refus d'ingérence étrangère, comment concilier le refus de l'ingérence dans les affaires internes des pays africains et la main tendue de ces derniers vers les mêmes puissances occidentales? Comment vous pensez résoudre ce problème?
Exactement, madame. Je crois que j'étais clair. Vous devez comprendre que l'Afrique vient de tirer les leçons du passé. Avec la politique ou la diplomatie de main tendue, nous étions toujours faibles. C'est pourquoi nous venons de dénicher les mots qui rongeaient notre diplomatie ou notre souveraineté. Au jour d'aujourd'hui, les États africains viennent de prendre conscience que nous devons autofinancer tous les domaines régaliens qui nous concernent, pourvu que les autres ne puissent pas avoir la moindre possibilité de pouvoir s'ingérer dans nos affaires. Au jour d'aujourd'hui, je crois que la RDC est allée contre-attaquer parce que un recours avait été introduit au niveau du Conseil européen. Je crois que la forte délégation qui est là, c'est pour aller confirmer ce que nous avions dit et pour que l'annulation de ces sanctions soit accordée à la République démocratique du Congo. Je crois que ce que disait l'un des intervenants, le vieux discours, nous l'avons compris qu'il fallait cesser avec le vieux discours. Aujourd'hui, l'Afrique vient de prendre la résolution de prendre son destin en main. Si hier, on ne cotisait pas, aujourd'hui, tous les États africains sont unanimes qu'il faut se cotiser pour confirmer notre souveraineté.
Merci, monsieur le vice-ministre. On va considérer cela aussi comme votre conclusion. Monsieur Fabien Moutombe, conclusion.
Le budget de l'Union africaine, ça vous prend quelque chose comme 760 millions de dollars américains. Et l'Union européenne intervient beaucoup plus par rapport aux pays africains. Nous voulons que les sanctions ciblées continuent, qu'on puisse élargir ça jusqu'à la limite à celui qui a violé la Constitution, à celui qui refuse d'organiser les élections.
Merci.
Il faut fondamentalement restructurer l'Union africaine.
Monsieur Fabien Moutombe, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.